monde.
Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowanie.
Daniel Desistelle.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. La campagne électorale passionne les Français, mais elle intéresse aussi beaucoup nos voisins. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal et même François Bayrou, sans oublier bien sûr Jean-Marie Le Pen, sont loin d'être des inconnus en Europe. Mais quel regard les Européens portent-ils sur notre campagne présidentielle? C'est le thème de ce Carrefour de l'Europe. Et nous allons en savoir un peu plus grâce à Anna Navarro de l'hebdomadaire portugais Vision. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Alexander Sobeck, directeur du bureau parisien de la ZDF, c'est la deuxième chaîne de la télévision allemande. Vous venez d'ailleurs de publier en Allemagne un livre qui ne sonne pas très bien à nos oreilles, en tout cas pas comme un compliment. Le titre de votre livre, Peut-on sauver la France? Guten Tag, Alexander.
Guten Tag.
Et István Felskyd, le correspondant à Paris de la RTBF, la radio-télévision belge francophone, qui a longtemps été le complice de Carrefour de l'Europe. Bonjour, István.
Bonjour.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a d'abord intéressé? Qu'est-ce qui a intéressé vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs dans cette campagne électorale française? L'irruption d'une femme en position de gagner, la personnalité de Nicolas Sarkozy, le célèbre ministre de l'Intérieur, ou tout simplement l'irruption d'une nouvelle génération de leaders politiques, Itzan.
En Belgique, cette élection suscite un véritable engouement. Dès que je franchis la frontière, les gens ne me parlent que de ça. Qui va gagner? Moi, je suis bien incapable de répondre. En tout cas, ce qui frappe, évidemment, c'est que c'est une nouvelle génération qui fait irruption à ce niveau, en tout cas, de responsabilité. On connaissait bien sûr Nicolas Sarkozy depuis des années, Ségolène Royal, les autres aussi, mais au niveau présidentiel, c'est la première fois, d'autant plus que on sait qu'en France, la fonction présidentielle est auréolée d'un certain prestige et d'une certaine prestance européenne. Alors, on attend bien sûr maintenant de cette élection une relance de l'Europe. Et c'est la grande question qu'on se pose en Belgique. Est-ce que cette élection présidentielle va permettre à l'Europe de redémarrer?
On va y revenir un petit peu plus tard. Alors, il faut dire que c'est paradoxal, mais il y a des élections en Belgique à peu près au même moment que les élections françaises, des élections législatives le 10 juin. Et paradoxalement, en Belgique, chez vous, on parle plus des élections françaises que de vos propres élections.
Oui, alors, il faut dire quand même que la campagne électorale n'est qu'en train de démarrer pour les législatives du 10 juin. Mais il y a déjà même des sondages en Belgique sur l'élection présidentielle française. Et je peux vous dire que la gagnante, c'est Ségolène Royal, qui remporte 43% des intentions de vote, contre 29% à Sarkozy. Et l'originalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est en Flandre. C'est grâce à l'opinion en Flandre que Ségolène Royal l'emporterait en Belgique. Parce que si c'était uniquement du côté francophone, ce serait Nicolas Sarkozy. Et une autre caractéristique, c'est plutôt les hommes qui votent pour Ségolène Royal plutôt que les femmes.
Donc Ségolène Royal, elle serait presque la reine des Belges,
en quelque sorte.
Alexander Sobeck, quelle place accordez-vous à Ségolène Royal sur vos antennes? À la tête de l'Allemagne, il y a Angela Merkel, c'est une femme. Ça a été le point d'ancrage, le point d'entrée pour ces élections, pour vous?
Bien sûr. Alors, la question, s'il y a une autre femme, aussi une femme très charmante, va peut-être la nouvelle présidence en France, ça intéresse beaucoup en Allemagne, parce que Angela Merkel est peut-être plus le seul dans le grand sommet européen. Mais je crois qu'ils sont tous la question comment on peut démarrer l'Europe, qu'est-ce qui se va passer dans la structure à Bruxelles, comment on va envisager tout le nouveau défi de la mondialisation. C'est tout qui intéresse, mais certainement le duel, comment on peut mettre ça, homme contre femme, c'est la chose le plus important pour notre audience. Et on regarde très intéressé qu'est-ce qui va passer en France, même si l'audience en Allemagne a pas encore reçu tous les candidats. Par exemple, la surprise de Bayrou, c'était un truc très nouveau pour les Allemands.
Alors justement, François Bayrou, il est connu au Portugal. Vous avez l'occasion de parler de l'irruption de François Bayrou, le candidat qu'on n'attendait pas.
Bien sûr, à partir du moment où les sondages l'ont donné comme le troisième homme, comme un éventuel finaliste du deuxième tour. Mais ce qui fascine le plus, c'est Ségolène Royal, sans l'ombre d'un doute. Et ce qui est très curieux, j'ai pu l'observer en province au Portugal, il y a un phénomène qui peut être identique à celui de Ségolène Royal en province en France. C'est-à-dire qu'elle parle au-delà du périphérique, au-delà des élites parisiennes, et elle semble avoir un ton qui, peut-être à Paris, est donné comme assez plat, mais en province, ça parle aux gens, ça leur parle des problèmes quotidiens, et curieusement, ça a un écho en province au Portugal, alors qu'à Lisbonne, elle passe nettement moins bien. C'est assez curieux. Mais cette campagne, chez nous, en ce moment, on s'intéresse, on se passionne pour elle, mais pour les aspects anecdotiques, plutôt
comme
de la
par
campagne.
Exemple, Anna Navarro.
Les petites pistes de campagne, les petites bourdes, les petites stratégies ou les petites tactiques pour pouvoir prendre le dessus par rapport à son rival. Mais elle déçoit sur le fond, car on s'attendait à un débat plus important sur l'international et sur l'Europe, car un président français, on le sait quand même, sur les bords du Tage, ce n'est pas un premier ministre, c'est un président qui s'occupe essentiellement de l'international et de l'Europe.
On va revenir à l'Europe. Le Pen, qui avait quand même créé la surprise en 2002, vous en parlez encore un petit peu ou vous l'avez un peu oublié,
oui, alors, tout à fait. Le Pen reste en embuscade et c'est une des grandes inquiétudes en Belgique. Vous savez, le 21 avril avait été ressenti comme un traumatisme en Belgique aussi il y a 5 ans. Et aujourd'hui, tout le monde se demande quelle sera la surprise. Alors, il y a quand même des anomalies, des bizarreries dans cette campagne. On voit par exemple, à la suite des incidents, il y a eu des incidents à la gare du Nord, une sorte d'émeute. Et Ségolène Royal avait dénoncé, et la gauche en général avait dénoncé ces incidents comme étant la résultante de l'échec finalement de Nicolas Sarkozy. 5 ans ministre de l'Intérieur, il n'a pas résolu le problème de l'insécurité et de la violence. Alors, on fait un sondage, et effectivement, une majorité de Français considèrent que pendant les 5 ans de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, les problèmes de violence et d'insécurité n'ont fait que empirer. Et puis, on fait un sondage, parallèlement, on demande aux gens quelle est la personne la mieux à même de répondre à cette violence. Et curieusement, le public répond Nicolas Sarkozy. Alors, il y a un problème de schizophrénie. Ou alors, Nicolas Sarkozy a amélioré la situation pendant qu'il était là, et alors il est en mesure de continuer à améliorer la situation. Ou alors, la situation a empiré, comme apparemment les gens le ressentent, et Nicolas Sarkozy a échoué. Il y a vraiment une sorte de schizophrénie. Et curieusement, la presse française ne s'est pas penchée sur ce problème pour essayer d'expliquer cette contradiction. L'explication, en fait, les sondages dans la presse française et dans cette campagne jouent le rôle d'événement. La presse française se décharge de la nécessité de mener des enquêtes et d'approfondir la situation. Le sondage est là pour remplacer le vide sidéral de l'analyse.
Nicolas Sarkozy, justement, Alexander Sebag, vous le présentez plutôt comme le fils spirituel de Jacques Chirac ou comme un candidat de rupture, comme il veut se présenter lui-même?
Non, il est un toute nouvelle génération, ça c'est impressionnant chez lui, mais qu'est-ce qu'il a dit justement, c'est juste la campagne française a un certain nombrilisme. Alors le candidat se fixe sur les médias français, sur le voteur, qu'est-ce qu'on peut comprendre, mais il est mis à côté complètement, par exemple la presse étrangère. Pas des interviews, pas de déplacements où on peut parler pour 3 minutes avec eux. Ils sont tous fixés sur la campagne française. Et je crois que c'est pour nous un peu dommage, parce que la grande challenge, comme on dit en anglais, ça sera l'Europe dans l'avenir. Ça, c'est pas seulement la France. Alors, il faut vraiment analyser qu'est-ce que le candidat dit. Par exemple, sur l'Europe, Ségolène veut avoir un autre référendum qui peut rater encore une fois. Sarkozy va faire son mini-traité, c'est rien d'autre que le papier de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a peut-être seulement Bayrou qui est un Européen par cœur. Alors, les phénomènes de Le Pen, c'est aussi notifié en Allemagne, mais pas si grand comme la dernière fois, et je crois la surprise va être quelque part entre 10 ou 12%.
Alors, les candidats parlent peu de l'Europe, mais ils s'en parlent quand même un petit peu. Tendez l'oreille.
Je suis candidate à l'élection présidentielle, afin que les hommes et les femmes, qui majoritairement ont voté non le 29 mai 2005, voient leur choix respecté et porté par la France au sein de l'Union européenne.
Moi, je suis profondément européen, mais pour une Europe des patries, une Europe des nations, une Europe des peuples et surtout une Europe des démocraties.
Je pense que la France, elle avancera plus vite et mieux et de façon plus crédible. C'est le pense et c'est l'avis européen.
L'Europe n'est pas seulement une nécessité pour nous, elle est une proposition pour le reste du monde.
Les jeunes cabris de l'UMPS, de l'UDF et du PS en bondissent sur place. L'Europe, 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 comme disait le général. Jamais pour ma part voté contre le traité de Rome.
Et je veux que la France revienne à la table de l'Europe et je ferai tout pour cela. L'Europe doit rester la grande ambition et la grande réalisation du 21e siècle.
Ce n'est pas une Europe faite pour vous tous, c'est pour nous tous. C'est une Europe faite pour certains groupes financiers. Et donc, il faut l'arrêter.
Je veux l'Europe. Je la veux de toutes mes forces. Je la veux de toute mon âme. Je la veux parce que j'aime la France et parce que la France ne peut pas résoudre ses problèmes sans l'Europe. Parce que la France ne pourra rien sans l'Europe. Parce qu'avec l'Europe, la France est plus forte. Voilà pourquoi je veux l'Europe.
Alors, dans l'ordre, Dussin-Villiers, Voynet, Bérou, Le Pen, Royal, Sivardier et Sarkozy, vous venez d'entendre le point de vue de la quasi-totalité des candidats sur l'Europe. Anna Navarro, l'Europe est relativement peu présente, malgré ce qu'on vient d'entendre là dans cette campagne électorale. Qu'est-ce qui l'explique, selon vous? Le traumatisme lié au 29 mai et le non à la Constitution européenne
Moi, d'ailleurs, je vous félicite, vous avez dû avoir du mal pour repasser ces petites citations. Non, je pense que ce qui manque à toute la classe politique française, mais au-delà à la classe politique européenne, c'est vraiment une vision de l'Europe et un projet de l'Europe. On ne le sent pas dans un monde qui est en pleine ébullition, en plein changement. On ne voit pas l'Europe s'affirmer ou un Européen avec un projet qui peut tenir la route à l'avenir. Donc, je pense que les Français ne sont pas très différents des autres. Et deuxièmement, effectivement, il y a le poids du non. Et on sait qu'il y a un électorat qui risque de voter contre un candidat qui va trop se manifester pour une Europe, une réforme institutionnelle et une Europe plus forte. Et troisièmement, parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme dans la classe politique française, c'est pas la seule d'ailleurs, mais tout ce qui va mal, tout ce qui est mauvais, toutes les pilules amères à faire passer, on les fait passer au nom de l'Europe. Maintenant, c'est difficile d'inverser le discours en ce moment de la campagne.
Je crois effectivement que l'idée européenne est anesthésiée en France depuis bien avant le non au traité européen. Et je crois que l'explication, c'est le malaise, la crise morale que traverse la France par rapport à sa propre identité. Je crois qu'on a assisté depuis une trentaine d'années à l'appauvrissement des classes moyennes. La part des salaires dans le revenu national a baissé depuis 30 ans de manière spectaculaire. Les gens se sentent déclassés et fatalement, comme il n'y a pas de pédagogie européenne de la part des dirigeants, Jacques Chirac n'a jamais eu une idée, une grande vision de l'Europe. Et même du temps de Jospin, on ne pouvait pas dire que Jospin apportait une vision originale de l'Europe. Donc depuis que Mitterrand n'est plus là, qu'il y avait une idée, il y avait le couple Kohl-Mitterrand qui avait une vision de l'Europe, il y avait Jacques Delors, il y avait des créateurs, il y avait un moteur européen qu'il n'y a plus. L'Europe manque de pères refondateurs. Alors je crois que ce qui s'est passé en France, c'est que ce sentiment d'écrasement et de déclassement de beaucoup de catégories sociales, on a rendu l'Europe responsable de cette situation. Et donc il y a une méfiance instinctive qui s'est installée vis-à-vis de l'Europe. Et en ce sens, paradoxalement, je crois que la démarche, par exemple, de Ségolène Royal, qui tend à remettre l'identité, mais pas une identité frileuse, mais une identité constructive, en disant voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans ce pays, elle s'adresse aux Français en leur disant soyez bien dans votre peau en tant que Français. Et à partir de là, nous pourrons aller vers les autres plus facilement. Donc, écarter cette crainte et ce sentiment de crispation envers l'Europe permettra à la France de renouer avec l'idée européenne. Bien sûr, ce qui reste à faire, c'est d'avoir des idées neuves en matière européenne, d'avoir des idées créatives pour relancer l'Europe. Et là, la question est posée. Est-ce que les candidats actuels sont réellement des pères ou des mères refondateur ou refondatrice de l'Europe.
Alors,
c'est la question.
Alexander Sebek, quand vous entendez tantôt Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, pour prendre les deux principaux candidats, je laisse François Bayrou de côté pour l'instant, et que vous les entendez dire la BCE, il faut qu'elle soit différente, et que l'euro est un peu remis en cause, en tant qu'Allemand et journaliste allemand, j'imagine que vous bondissez sur votre chaise.
On peut bien comparer, parce que les problèmes sont presque le même en Allemagne et en France. C'est le chômage, c'est la démographie, c'est l'intégration. Et qu'est-ce qu'il a dit? Certainement, l'Europe a un peu perdu son âme. Chacun aime consommer l'Europe, on aime l'euro, on fait ses voyages, ses vacances partout, son passeport, c'est bien. Mais il n'y a aucune personne qui vraiment aime l'Europe et l'idée, spécialement les relations franco-allemandes. On a parlé toujours d'un moteur de l'Europe. Maintenant, c'est peut-être un peu le moteur hybride qui manque de certaines vélocités.
Un peu de carburant.
Un peu carburant ou du gaz ou quelque chose d'autre. Mais il faut retrouver l'âme d'Europe. Et c'est seulement possible avec un nouveau président en France et en Angleterre.
Est-ce que vous croyez qu'à l'issue de ces élections présidentielles françaises, le couple franco-allemand peut remarcher, redémarrer, en tout cas marcher un peu mieux qu'aujourd'hui?
J'espère ça. Madame Merkel a bien préparé ça avec la déclaration de Berlin. Mais maintenant, il faut faire un peu plus qu'une déclaration. La déclaration, c'est comme le liste pour le Père Noël. Mais après, il faut vraiment mettre les choses en place. Et ça, c'est seulement possible, je crois, avec un moteur franco-allemand et avec les autres. Chancelier Kohl a toujours dit qu'il faut regarder le petit pays dans l'Europe. Et la France et l'Allemagne doivent retrouver ça.
Alain Barraud.
Oui, on a entendu dire au Parlement européen, après les déclarations de Ségolène Royal sur un nouveau référendum sur le traité constitutionnel, un traité constitutionnel remanié, évidemment, on a entendu déjà des anticipations disant si la France vote un nouveau non, à ce moment-là, il faudra se poser la question sur la place de la France en Europe, ou si elle doit, oui ou non, quitter l'Europe. Ça me semble être le fruit d'un esprit extrêmement négatif de la part des classes dirigeantes en Europe, et ça rejoint tout ce qui a été dit autour de cette table, dans ce studio, justement sur le manque de vision, sur le manque de projet, sur le manque d'un esprit, d'un souffle nouveau, d'une refondation de l'Europe. Et je crois que remanier le référendum, le traité, revenir sur des référendums, ça ne sera pas accepté par les Européens, parce que je suis persuadée que le non, tel qu'il a été porté par les Français et les Hollandais, se termine là-dessus. Ce non était aussi un non à tout ce qui a été fait dans les dernières 15 années en Europe. Après Delors, c'est quelque chose qui est entré dans une phase d'appauvrissement de l'esprit européen et qui n'est plus accepté par les Européens. C'est cela aussi qu'il faut tenir compte.
Et la crise en France, c'est pas seulement une question de... Les Français sont pas venus des anti-européennes. Ils ont eu de ras-le-bol avec le vieux système, avec la politique de Raffarin et Chirac. Et c'était la facture pour ça.
Alors ça revient un petit peu au titre de votre livre. Peut-on sauver la France à l'époque?
C'est grand et joli.
Ivan Salkai.
Oui, alors effectivement, le nom français est de manière très limitée un nom à l'Europe, une Europe pas assez sociale, mais le nom est essentiellement, dans sa grande majorité, un nom à Chirac et à Raffarin au moment du vote. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles les Belges et probablement d'autres pays en Europe sont tellement intéressés par l'élection française. C'est que pour la Belgique, son premier partenaire, c'est la France. Partenaire économique, culturel, à tous les niveaux, même quasiment familial. Et de manière plus globale, c'est le couple franco-allemand qui est le principal partenaire, parce que l'Allemagne est le deuxième partenaire de la Belgique. Par conséquent, tout ce qui est bon pour le couple franco-allemand est bon pour la prospérité de la Belgique. D'où, évidemment, l'intérêt des Belges qui suivent ce qui se passe à la fois en France, à la fois au niveau européen et à la fois au niveau du couple franco-allemand. Cela dit, la France doit se rendre compte que dans l'ensemble que constitue aujourd'hui l'Europe à 27, elle n'est plus qu'une part infime de la population, elle ne représente plus vraiment la force politique qu'elle représentait dans l'Europe. Et donc voilà, elle doit se rendre compte qu'un nouveau nom de sa part l'isolerait complètement au sein de l'Europe.
Les Français ne sont pas tout seuls en Europe, et l'Europe, ce n'est pas la France en plus grand, Ce sera le mot de la fin. C'est vous qui l'avez eu, Sam Selsky. Alain Navarro, Bison, merci. Alexander Sobek, ZDF. Yvonne Selsky, RTBF. Merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci à Jean-Marc Minier et à Olivier Duval qui ont réalisé cette émission. Daniel Ezesquel, je vous souhaite une bonne semaine européenne.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.